Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale Okapi, service émission spéciale francophonie. C'est aujourd'hui la célébration de la journée internationale de la francophonie. Eh bien, nous allons en parler, échanger là-dessus avec nos invités. Nous avons des ambassadeurs dans ce studio. Nous avons Monsieur Jasper Sarotilé, ambassadeur de Suisse et nouveau président du groupe des ambassadeurs francophones. Monsieur Jasper, bonjour. Et bienvenue dans cette émission, Monsieur Dorossi, ambassadeur du Sénégal. Bonjour.
Bonjour.
Nous avons également, c'est le Monsieur Mbengue Moli, Jacques Bertrand, deuxième conseiller à l'ambassade du Cameroun. Monsieur Mbengue, bonjour.
Bonjour.
Monsieur Bruno Aubert, ambassadeur de France. Bonjour.
Bonjour.
Monsieur David Tonon, délégué de Wallonie-Bruxelles. Bonjour.
Bonjour et bonjour aux auditeurs.
Voilà, Monsieur Rachid Agassim, ambassadeur du Maroc. Bonjour.
Bonjour à tous.
Et nous avons Monsieur Mabiala Maumba, délégué général à la francophonie. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Bienvenue à tous dans cette émission Okapi Service, émission spéciale francophonie, journée de la francophonie. Vous voulez participer à cette émission? Eh bien, le standard est déjà ouvert. Il suffit de composer les 099-706-9941. Écrivez-nous également à service@radiookapi.net et laissez un commentaire sur la page Facebook de l'émission Okapi Service. Au micro, c'est Jody Daniel Kajama Tatimapoukou. Assure la coordination et la réalisation de cette émission, Jean-Noël Mokondo à la mise en onde. Excellente condition d'écoute du magazine de la vie au quotidien.
Pour s'informer, de plus en plus d'internautes choisissent radiookapi.net. Chaque mois, vous êtes plus d'un million à nous suivre sur www.radiookapi.net et votre avis nous intéresse. Chaque jour, une question d'actualité est à la une du site, plusieurs propositions. Exprimez votre opinion. Écoutez les résultats de cette consultation sur l'antenne chaque jour à 8h45 et après les infos de 16h30 sur radiookapi.net.
Bien, la journée internationale de la francophonie est célébrée le 20 mars de chaque année dans les pays francophones, mais aussi dans ceux où la langue française est moins répandue. Des centaines d'événements sont ainsi organisés pour mettre en lumière la diversité et la vitalité de la francophonie. La date du 20 mars fait référence à la naissance en 1970 à Niamey de l'Agence de coopération culturelle et technique qui allait devenir ensuite l'Organisation internationale de la francophonie. En 2024, le sommet de la francophonie de Villers-Cotterêts aura pour thématique « Créer, innover, entreprendre en français ». Et cette orientation souligne les multiples opportunités et le dynamisme de l'espace francophone, encourageant ainsi la créativité, l'innovation et l'entrepreneuriat comme levier des créations d'emplois pour la jeunesse. Eh bien, messieurs les ambassadeurs, je vous remercie de votre présence à cette émission radiophonique consacrée à la Journée internationale de la francophonie qui est célébrée chaque année, le 20 mars. Alors la première question est de savoir, je l'adresse à monsieur Bruno Aubert, ambassadeur de France. La première question est de savoir, pouvez-vous en quelques mots expliquer comment est né cet espace de la francophonie et quelle était son ambition initiale?
Merci. Rebonjour à tous. L'émergence de l'espace francophone, c'est la volonté progressive des pays qui avaient la langue française en partage de pouvoir se retrouver dans un cadre institutionnel, international. Et comme vous l'avez indiqué, ça a commencé, le moment fondateur, ça a été 1970, et c'était la création de l'Agence de coopération culturelle et technique qui ensuite deviendra plus tard l'Organisation internationale de la francophonie, donc une organisation internationale. Et donc on voit bien d'emblée d'ailleurs qu'elle a été tout de suite centrée sur l'Afrique.
Donc ça, je merci de me rapprocher de votre micro.
Je crois que c'est ce qui est important à retenir à ce stade de la réflexion. C'était la volonté, effectivement, de partager cette langue, d'autant que, au même moment, les immenses progrès de la scolarisation ont favorisé à ce moment-là sur le continent africain. Je le répète, je pense que l'Afrique était au centre de cette prise de conscience et de cette volonté, le développement de la langue française.
Bien, je sais que vous fournissez un groupe d'ambassadeurs francophones, aujourd'hui présidé en RDC par l'ambassadeur de Suisse. Alors pouvez-vous nous dire en quelques mots à quoi sert ce groupe et quel est son rôle, monsieur l'ambassadeur de Suisse, monsieur Jasper Sarot?
Merci, oui, ça fait 8 jours maintenant que je suis le président du groupe des ambassadeurs francophones ici à Kinshasa.
Ok.
Mais c'est donc un groupe, comme le terme le dit déjà, qui réunit tous les ambassadeurs francophones ici dans le pays, donc tous ceux qui sont représentés avec des représentations diplomatiques. Ça nous permet d'avoir une plateforme d'échange aussi sur le terrain. On est dans le plus grand pays francophone au monde. On a eu les Jeux internationaux de la francophonie l'année dernière ici à Kinshasa, donc c'était aussi une plateforme idéale pour échanger entre nous, notamment pour les préparatifs, les avancements, mais aussi des questions pratiques liées à des délégations qui sont arrivées. Et ce groupe, évidemment, elle essaie aussi de mettre en œuvre des projets en commun. Cette année, on a monté un festival de films francophones qui a lieu toute la semaine encore au Centre Wallonie-Bruxelles avec 6 ou 7 pays qui participent cette année avec une contribution. Donc nos actions sont multiples.
Bien, vos actions sont multiples. Alors, compte tenu de la situation dramatique à l'est de la RDC, le gouvernement congolais n'a pas souhaité célébrer officiellement la francophonie, mais les pays francophones représentés à RDC ont préparé des manifestations pour cette journée internationale. Alors, pouvez-vous nous présenter quelques-unes de ces manifestations? Je vais donner la parole à M. De Rossi, ambassadeur du Sénégal.
Alors, concernant peut-être...
Merci d'être devant votre micro.
Excusez-moi. D'accord, allez. Donc, merci de me donner la parole. Donc, effectivement, les ambassadeurs issus de l'OIF donc ont pris l'initiative d'avoir diverses manifestations culturelles, déjà, et pour un peu célébrer cette journée. Et donc il y a eu il y aura des séances d'échange, il y aura des films qui vont être projetés, il y aura
une merci d'être devant votre micro.
Il y aura des rencontres effectivement culturelles qui vont être mises en place, notamment au Centre Wallonie-Bruxelles et un peu partout au niveau des Kinshasa. Donc c'est notre façon à nous de contribuer par rapport à cet esprit de la francophonie qui nous lie, et d'autant plus qu'il faut simplement relever une particularité heureuse pour nous. On est ambassadeur dans le plus grand pays francophone du monde, en fait, Kinshasa. Donc c'est vraiment l'occasion de magnifier cet esprit.
Bien, monsieur David Tonon, délégué de Wallonie-Bruxelles, parlez-nous des activités qui sont prévues à l'occasion.
Ah bah écoutez, il y a vraiment des activités multiples dans différents endroits. Je dirais que traditionnellement, c'est vrai qu'il y a deux grands pôles fixes que tout le monde connaît, qui sont l'Institut français et le centre
Wallonie-Bruxelles.
Mais c'est pas tout. Il y a l'Académie des Beaux-Arts qui aussi nous aide. Et puis il y a pas mal d'activités qui se font hors les murs, pour être au plus proche des francophones congolais. Et donc ce sont des activités dans toute une série de domaines, que ce soit dans la lecture, le slam, l'écriture, les échanges, la musique, le théâtre, le cinéma chez nous. À la bibliothèque, nous aurons par exemple toute une discussion sur le français de RDC, le français de Kinshasa, qui est merveilleux. Mais qui a ses particularités. Et donc je pense que le fil conducteur à travers toutes les actions du groupe des ambassadeurs francophones, c'est de faire apprécier notre diversité. On parle tous presque la même langue, et c'est dans le presque que réside la richesse. Et donc plus le presque sera grand, plus on sera riche. Oui.
Bien, Monsieur Rachid Agassim, du côté de l'ambassade du Maroc, quelles sont les activités qui sont prévues à cette occasion?
Merci. Je ne vais pas répéter ce que mes collègues ont déjà énuméré comme activité. D'abord, c'est une journée de célébration. Et comme vous l'avez cité, on regrette que la partie RD congolaise a décidé de ne pas célébrer, quand on dit célébrer, c'est-à-dire dans une atmosphère festive. On comprend très bien les raisons. Mais on a ici avec nous notre frère Mabiala, le délégué général de la francophonie, qui va élaborer sur ce point. Pour les activités, comme mes collègues ont déjà précisé, il y a des manifestations culturelles un peu partout dans la ville. Et d'après le programme, ce n'est pas seulement à Kinshasa, mais c'est aussi à Lubumbashi. Ça, c'est grâce à l'Institut français. Donc, on essaie, en tant que groupe, d'inclure le maximum de citoyens RD congolais dans ces manifestations, à travers des concours de langue, de dictée, de théâtre. Et puis aussi, il y a le festival de films. Et ça, c'est très important.
Festival de films marocains.
J'attends toujours, me concerne, j'attends toujours, mais je vais voir avec notre cher délégué de Wallonie-Bruxelles. Il y aura un film marocain, bien sûr. Le Maroc est très bien intégré dans cet espace francophone qui est l'OIF. On a rejoint l'organisation de la francophonie en 1981. Donc on est très engagé dans cet espace.
Merci. Bien, je vais donner la parole tout à l'heure à M. Mabiala. Avant cela, on va écouter M. Mbeng Moli, qui est le deuxième conseiller à l'ambassade du Cameroun. Alors, du côté de l'ambassade du Cameroun, qu'est-ce qui est prévu à l'occasion de cette célébration de la journée de la francophonie?
Pour cette circonstance, comme l'ont indiqué les présents intervenants, les activités sont organisées de façon concertée. Et donc, déjà participé à toutes les activités prévues, notamment comme indiqué au Centre de Bruxelles, qui concerne le projet cinématographique, assister aux cérémonies d'inauguration et également, n'est-ce pas, suivre en liaison avec le Cameroun ce qui s'y fait et rendre compte de ce qui se fait ici. Mais déjà, peut-être indiquer que nous avons, dans le cadre du festival du cinéma francophone prévu au Centre Wallonie Bruxelles, sollicité de Yaoundé, un film à projeter. Nous attendons que ça puisse se faire et nous espérons que s'il arrive même un peu dans des délais non impartis, nous serons négociés avec le Centre Wallonie Bruxelles pour le projeter et poursuivre, n'est-ce pas, de façon continue la célébration de l'espace culturel francophone. Parce que c'est une journée, certes, qui célèbre la francophonie,
oui.
Mais la francophonie, on la vit au quotidien, et il faut continuer à la vivre de cette façon-là. Donc nous sommes en attente, n'est-ce pas, de ce qui nous vient à Yaoundé, nous aménagerons un espace, bien sûr, avec l'accord du Centre de Bruxelles, pour projeter, n'est-ce pas, ce film.
D'accord. Monsieur Mabiala Maoumba, vous êtes délégué général à la francophonie, on retient que cette année, à RDC, il n'y aura aucune activité à l'occasion de cette journée.
Non, c'est pas juste de dire qu'il n'y aura aucune activité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cérémonie officielle organisée par le gouvernement pour célébrer le 20 mars, mais nous avons encouragé la société civile à exécuter, à mettre en œuvre les activités qui ont été prévues un peu partout à travers le pays. Par exemple, il y a des professeurs, des associations de professeurs de français qui organisent des concours d'éloquence, des concours d'orthographe, etc. Donc ces activités sont maintenues. Nous ne les avons pas annulées. Il n'y a pas de raison pour que nous puissions les annuler. Donc nous avons dit que sur le plan officiel, il n'y a pas de cérémonie, mais nous encourageons les Congolais à prévoir, à mettre en œuvre les activités qu'ils ont prévues. Parce que n'oubliez pas quand même, le français, c'est notre langue officielle. C'est notre langue. Et vous savez que, pour le moment, il y a même des enfants qui y ont comme première langue le français. Donc on ne peut pas nier la présence importante du français dans notre société. Bien entendu, nous avons des langues nationales, etc., qui coexistent avec le français.
Avec le français, oui.
Mais le français, c'est aussi notre langue et nous le revendiquons. Tout comme nous revendiquons notre place au sein de l'Organisation internationale de la francophonie. Et sur ce plan d'ailleurs, je suis assis à côté de l'ambassadeur du Sénégal, je ne peux pas m'empêcher de rappeler que la naissance de ce qu'on appelle la francophonie institutionnelle, qui s'appelait à l'époque Agence de coopération culturelle et technique, la naissance des pères fondateurs, c'est Léopold Sédar Senghor du Sénégal, Habib Bourguiba de Tunisie, Diori Amani du Niger et le prince Nordon Sihanouk du Cambodge. Ce sont ces quatre-là qui ont eu l'initiative de rassembler les États qui ont le français en partage, parce que ça nous unit, qui ont le français, et de créer cette organisation qu'on avait appelée à l'époque Agence de coopération culturelle et technique, ACCT, et qui est devenue au fil des années l'Organisation internationale de la francophonie que nous connaissons maintenant. Mmh. Et j'aimerais aussi quand même rendre hommage et remercier les ambassadeurs francophones qui sont ici, représentés, leurs gouvernements respectifs. C'est un honneur pour nous d'accueillir un pays des ambassadeurs, parce que ça signifie justement qu'ils sont disposés à collaborer avec nous, à coopérer avec nous. C'est ça justement qui est très 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 important pour nous. Quand nous recevons un ambassadeur, ça signifie que son pays témoigne de la volonté d'établir des liens, de renforcer des liens entre la RDC et son pays. Donc pour nous c'est un honneur et je suis extrêmement ravi d'être ici pour représenter son Excellence le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de francophonie. Donc c'est un honneur d'être ici parmi les ambassadeurs francophones.
Bien, au Capi Service, émission spéciale francophonie, vous voulez participer à ce programme, le standard est ouvert. Composez le 099-706-9941, 099-706-9941, écrivez-nous également à service@radiocapi.net. Nous avons déjà en ligne quelques auditeurs. Charles Kissimba nous appelle de Lubumbashi, et André Emmanuel il est également dans la même ville. Vous voulez participer, le standard est ouvert, n'attendez pas les dernières minutes.
Pour s'informer, de plus en plus d'internautes choisissent radiocapi.net. Chaque mois, vous êtes plus d'un million à nous suivre sur www.radiocapi.net et votre avis nous intéresse. Chaque jour, une question d'actualité est à la une du site, plusieurs propositions. Exprimez votre opinion. Écoutez les résultats de cette consultation sur l'antenne chaque jour à 8h45 et après les infos de 16h30. Sur radiocapi.net.
Bien, émission spéciale Journée internationale de la francophonie. Nous allons accueillir les auditeurs. Charles Kissimba de Lubumbashi, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody. Bonjour aussi au peloton d'ambassadeurs.
Bien, quelle est votre préoccupation?
Oui, je voulais un peu le signaler que je suis aussi professeur de français. Je suis vraiment
c'est bien.
Très heureux parce que nous allons nous échanger aujourd'hui.
Bien, monsieur, qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Ambassadeur, pourquoi la francophonie ne se penche pas jusque-là à pouvoir aussi promouvoir les jeunes talents écrivains qui évoluent dans la littérature écrite? Aujourd'hui, nous nous rendons compte que la littérature écrite congolaise, sa mère, vous verrez que ce n'est plus une même ampleur comme c'était aux années 60, 70, 80, avec nos aïeux, Damenga, et pour ne pas citer tout le monde. Mais aujourd'hui, nous avons même peur de postuler dans ces métiers-là. Et les messages que nous véhiculons d'ailleurs au quotidien aux élèves que nous formons est que dans ces pays, une fois vous vous intéressez dans la littérature écrite, en tout cas, vous choisissez la pauvreté. Vous verrez que nous sommes les bien négligés
bien.
De la nation.
Bien, merci Charles. Merci beaucoup. On a retenu votre préoccupation. Pardon?
Pour terminer.
D'accord.
Oui, et même dans des rendez-vous nationaux, tels que les jeux de la francophonie et consorts. En tout cas, même les professeurs de français ou bien les écrivains, comme je le disais, ils n'ont pas les réparatives. Je ne sais pas pourquoi. Et même les concours là d'orthographe et de dictée consort, c'est toujours à Kinshasa. Mais pourquoi pas aussi les concours de dissertation? En tout cas, nous sommes oubliés. Nous voulons à ce que l'on puisse aussi passer.
D'accord.
Passer à nous.
Merci Charles. Merci beaucoup Charles. On va donner la parole à André Emmanuel qui est également à Lubumbashi. Bonjour André. André, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour. Il n'est plus en ligne. On va accueillir Pierrot, un Pagnan, toujours à Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, Jobby. Bonjour aux ambassadeurs de la francophonie. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi. Nous avons la joie, nous sommes plus que contents de parler sur la francophonie. Bien que nous avons connu une grande fête à Kinshasa, mais nous constatons qu'il y a des choses qui ne vont pas avec le pays francophone, dont il y a certains qui ont commencé même à chasser la France dans leur pays, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Avant de poser mes questions, je voulais demander à nos ambassadeurs et invités qui sont dans les studios, où est partie l'Académie française? C'est une chose qui nous échappe et que nous voulons que vous puissiez nous éclairer. Parce que quand nous, on étudiait, on avait des textes, on avait des livres qui sortaient, mais nous voyons que peut-être c'est une légèreté ou quelque chose. Voilà les questions que je voulais poser. La francophonie est-elle un concept ou bien est-elle un cadre de développement, vu qu'aujourd'hui, c'est plus le pays anglophone qui se développent et se soutiennent mutuellement, et l'anglais devient presque une langue commerciale pour dans le monde entier et une langue de marketing. Ça, c'est la première question. La deuxième question que je voulais poser à nos invités est cette situation sécuritaire qui est à l'est de notre pays aujourd'hui. Nous savons que tout le monde sait que c'est un pays anglophone qui est le Rwanda, mais qui dirige la francophonie. Et ce pays-là est devenu un piment de squelette dont le pays francophone ne savent plus aider nos deux pays francophones entre le Rwanda et la RDC.
Bien, merci.
Nos ambassadeurs peuvent nous faire quelque chose pour nous convaincre et dire que non, la francophonie a besoin d'être dans ce pays où c'est nous, le peuple congolais, qui doivent chasser
Merci Pierrot. D'accord. Merci Pierrot de Lubumbashi au Capi Service, émission spéciale Journée internationale de la francophonie. Je vais donner la parole à l'ambassadeur de France, Monsieur Bruno Aubert. Vous avez suivi la première question de Charles de Lubumbashi. Il part de la promotion des jeunes des écrivains. Voilà.
Là, moi, je suis très touché par ce cri en faveur de la littérature et des écrivains. Je pense qu'effectivement, c'est fondamental. Pour développer une langue, pour donner l'amour de la langue, il faut qu'il y ait des livres, il faut qu'il y ait des écrivains dans le pays qui est dans le pays considéré. Il faut qu'il y ait un accès aux livres. Et le cœur, le nerf de la guerre de tout ça, c'est effectivement l'écriture et la lecture. Donc c'est le livre. Et il y a des écrivains congolais, il y a de jeunes écrivains congolais qui sont insuffisamment connus et valorisés, à mon avis. Il y a des gisements d'intelligence en langue française dans ce pays qui sont absolument considérables. Alors nous faisons des choses, le Centre Wallonie-Bruxelles aussi, on accueille des écrivains, on accueille des écrivains dans des résidences d'artistes. Donc les écrivains, au même titre que les artistes plasticiens, qui sont très reconnus en RDC et à l'international, sont en quelque sorte nos partenaires privilégiés. Mais moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit par notre auditeur. Le livre et les écrivains devraient être encore plus considérés, mais pas uniquement par les centres culturels étrangers. Enfin, nous sommes très proches, nous sommes en situation de proximité, mais malgré tout, nous sommes des partenaires étrangers. Donc, moi, je relaie cet appel aussi en direction des autorités congolaises pour que pour que les jeunes écrivains congolais soient dûment considérés. Je veux dire, ils sont aussi d'une certaine manière un peu l'honneur de ce pays. Mmh. Et je pense qu'on doit faire plus pour les écrivains. Ça, je suis tout à fait d'accord.
D'accord. Et la deuxième question, de savoir qu'est-ce que l'Académie française est devenue.
Alors, j'ai pas trop compris la question. L'Académie française, elle est toujours là, elle prospère, toujours, elle se renouvelle. Ah ben bien sûr, il y a toujours les 40 immortels. Lorsque un disparaît, ben il est immédiatement remplacé. Et voilà. Donc l'Académie française fait son travail. Et elle fait un travail d'ailleurs régulier sur la langue, sur les nouveaux apports qui arrivent dans la langue française. C'est un travail considérable qui est mené par les académiciens. Donc l'Académie française, elle est là, plus que jamais présente, et elle continue de fonctionner. Mmh.
Monsieur David Thomon, vous êtes délégué de Wallonie-Bruxelles. Comment vous contribuez à la promotion des jeunes écrivains congolais aujourd'hui?
Ben écoutez, chez nous en tout cas, les écrivains sont très importants. Et surtout les écrivains congolais. J'entendais monsieur qui disait que rien ne se faisait pour les écrivains congolais. Alors là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui. Régulièrement, plusieurs fois par mois, nous recevons des écrivains congolais. Je regardais le dernier en date, c'est Olson Mpangala, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle L'écho des douleurs. Et pas plus tard que le 16 mars, on a présenté ce livre, et c'est quelque chose qu'on fait régulièrement. Mmh. En revanche, je partage tout à fait le point de vue du collègue ambassadeur de France quand il dit que les livres ici sont considérés comme un trésor. Moi, je suis arrivé il y a 6 mois et c'est quelque chose qui m'a frappé. Quand on vient de... Alors là, j'arrivais de Londres, mais je veux dire, j'ai vécu essentiellement, on va dire, dans le monde occidental. On ne se rend pas compte combien le livre est un... Chez nous, on ne se rend pas suffisamment compte combien le livre est un objet précieux, dans tous les sens du terme. Et ici, c'est vraiment un objet précieux dans tous les sens du terme. Il est rare, on ne le trouve pas facilement, il est cher. Et effectivement, les écrivains congolais ont du mal à se faire connaître. Et c'est une observation que nous avons faite. Et depuis que je suis arrivé, on est en train d'essayer d'apporter notre pierre à l'édifice, parce que collectivement, je pense qu'on essaye tous d'être ici au Congo, pas comme des ambassades avec des hauts murs fermés sur la société congolaise, mais au contraire, je pense qu'on est tous ouverts sur la société congolaise. Et l'observation que je fais au niveau de l'écriture, et pas seulement, c'est peut-être que les écrivains congolais connaissent mal leur public. J'ai lu des ouvrages qui sont vraiment magnifiques, mais après, il y a aussi la notion, quel est mon marché? À qui dois-je m'adresser? Qu'est-ce que je vais pouvoir vendre, commercialiser? Par quel circuit? Comment m'adresser à des critiques de journaux spécialisés en littérature en France, en Belgique, en Suisse, au Canada, au Mali, enfin voilà, un peu partout.
Au Sénégal,
au Maroc,
au Cameroun.
Les identifier, comment s'adresser à eux, comment faire en sorte qu'on va parler de mon livre. Et en fait, voilà.
Merci de vous rapprocher du micro.
Il y a énormément de talent, il y a un savoir-faire exceptionnel. Mm-hmm. Et je pense que nous, on va un peu travailler sur le faire savoir, sur le fait de faire en sorte que les artistes congolais s'intéressent un petit peu à la notion de qui sont leurs potentiels clients, et pourquoi pas écrire pour des séries télévisées. Enfin, je veux dire, il n'y a pas que la poésie. Le slam est quelque chose qui est très, très congolais, qui est magnifique. Mmh. Mais l'artiste doit vivre et doit vivre de son art. Et pourquoi ne pas mettre ses talents au service de quelque chose qui va rapporter, pour faire naître alors en RDC, ce qui existe très peu, voire pratiquement pas, une industrie du livre. Donc oui, je m'inscris assez bien en faux par rapport à ce que monsieur disait, mais je suis... comme Bruno, très, très touché de ce cri qu'il a lancé, parce que ce cri, par contre, il est tout à fait réel, oui.
Bien. Avant de poursuivre, de donner la parole aux autres ambassadeurs, je vais accueillir deux auditeurs, Ismaël et Talumbashi, et Jonas Kabinda nous appelle des Kananga. Ismaël, bonjour. Ismaël, vous êtes à Talumbashi, bonjour.
Je viens de Moto.
Bien, on va accueillir Roger Marcel de Kinshasa. Bonjour Roger.
Bonjour Monsieur Tassier, bonjour à nos invités, bonjour à tous les amis qui viennent de la radio de la paix.
Oui, quelle est votre préoccupation à l'occasion de la journée internationale de la francophonie?
Monsieur Jobim, vous savez que la République démocratique du Congo, c'est un pays francophone. Et si vous regardez même le nombre de la population, quand même, je pense que dans notre pays, on respecte quand même la langue française par rapport à d'autres pays. Et si vous regardez même jusqu'à à tous les niveaux, on commence depuis l'école maternelle jusqu'au niveau de l'humanité, jusqu'à l'université, c'est le français qui est vraiment parlé vraiment. Mais sur le terrain, on ne voit pas quand même la francophonie quand même par rapport. Si vous regardez, vous allez aujourd'hui même dans des écoles, pour voir même quand même des livres, parce qu'aujourd'hui avec le français, il y a quand même des notions qui sont introduites, même des
oui, Roger, allez droit au but. Quelle est votre question, Roger? Quelle est la question que vous adressez aux invités, aux ambassadeurs qui sont ici?
Ouais, je voudrais leur demander pour cette année, ils ont choisi quelle activité quand même pour toute la République et quelles sont les initiatives qu'ils pensent pour l'avenir pour la langue française.
Bien, merci. Ismaël Mumpo de Lubumbashi, bonjour.
Bonjour, je dis Daniel Kachama, bonjour à tous les invités qui sont au plateau.
Bien, soyez bref dans vos interventions. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la journée internationale de la francophonie?
Parfait. Il était une surprise ce matin quand je dis que ces journées ne seront pas commémorées où il n'y a aucune activité en RDC. Mais par rapport à ce sujet, je pouvais poser la question juste à l'ambassadeur de la France pour dire, selon cette langue française, comment il paye nous donner le pourcentage de la culture francophone dans des pays où on parle la langue française. Et plus aussi, qu'est-ce qu'ils ont déjà fait pour les grands écrivains africains de grand renom qui ont fait quelque chose pour valoriser cette langue en Afrique. Et plus aussi, mon inquiétude était juste sur l'organisation de la francophonie en Afrique. Mais comment se fait-il que dans un pays où on ne parle pas la langue française, on peut attribuer les secrétariats à ces pays-là? Ou quand le président du monde francophone se réunit, je ne vois pas la culture française représentée plutôt que ça devient une journée politique. On n'a aucune culture francophone représentée dans le monde présentement. Toutes choses sont devenues politiques. Tenez qu'en République démocratique du Congo, puis par des jeunes qui pouvaient aussi être reconnus par les réserves françaises, on ne sent pas, on ne sent rien. Moi, d'accord. En plus, quand moi j'écris, je peux vous donner l'exemple. Parmi les poèmes saillants que j'ai pu écrire, il y a la douce mer. Mais les gens ne s'intéressent pas, si les Congolais ne s'intéressent pas. Mais pourquoi l'organisation de la francophonie ne pouvait pas récolter merci. Tous les jeunes qui se donnent pour écrire même un tout petit mot en français, en vue de valoriser tout ce qu'ils sont en train de faire?
Merci, niveau, merci Ismaël. Ça. D'accord, on a compris. Merci. Jonas Kabinda, vous êtes à Kananga. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jody Daniel. Bonjour, l'ambassadeur de France. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Bien, quelle est votre question?
La question est la suivante, monsieur Jody. Aujourd'hui, nous commémorons la journée internationale de la francophonie. Je pense que l'ambassadeur de la France est dans sa peau lorsque les Congolais s'expriment bien en français, couramment en français. Notre pays est, je crois, le premier pays africain qui parle vraiment français. Bon, mais la question que je pose est la suivante. Partant du principe, la culture, c'est ce qui reste quand on a tout perdu. Qu'est-ce qu'il faut dire aux Congolais qui ont une multitude de langues? Parce que nous nous rendons compte que au Congo, les enfants à l'école ne maîtrisent pas suffisamment la langue française pour beaucoup, pour la plupart, je dirais. Je ne dis pas bien la langue française sur le plan culturel que choral, mais ils maîtrisent aussi, ils aiment bien leur langue. Et nous avons beaucoup de langues en RDC. Comment alors la France pense-t-elle aider la RDC à cohabiter avec la langue française et les langues congolaises? Comment la France pense-t-elle aider la RDC à cohabiter sur le plan linguistique. Voilà, bien. C'est cette préoccupation que j'avais.
Bien, merci beaucoup pour toutes ces préoccupations. Bien, je vais donner la parole à monsieur l'ambassadeur du Sénégal, monsieur de Rossi.
Oui.
Ouais, il y a une question qui a été posée par rapport à la promotion des jeunes écrivains, des jeunes talents, etc. Ben, vous avez un mot à dire là-dessus?
Alors, les pères fondateurs de la francophonie avaient notifié que la CCT devait être une coopération politique, éducative, économique et culturelle. Mais moi, je voudrais insister sur l'aspect éducatif. Je pense que la francophonie doit être beaucoup plus en construction au niveau de l'école. C'est à ce niveau-là que je pense qu'on pourrait trouver des issues heureuses. Et je pense que concernant les jeunes écrivains, c'est à ce niveau-là qu'il faut stimuler un peu la passion, l'envie et pourquoi pas l'ingéniosité. Et donc je pense que c'est au niveau de l'école qu'il faut les accompagner et que la francophonie puisse insister à ce niveau-là. C'est au niveau vraiment de l'éducation qu'on pourra faire changer les choses.
D'accord. Monsieur Mabiala, vous avez la parole.
Merci. Moi, j'aimerais renforcer ce que vient de dire l'ambassadeur du Sénégal. L'école joue effectivement un rôle très important, aussi bien dans la promotion du français que dans la promotion de nos langues locales, que ce soit les quatre langues nationales que nous avons et les autres langues que nous avons. Nous avons plus de 200 langues dans ces pays. J'aimerais rappeler à ce sujet que la loi cadre de l'enseignement stipule que quand les enfants vont à l'école durant les 3 ou 4 premières années, ils devraient être enseignés dans les langues locales, les langues qu'ils comprennent. Ça leur faciliterait après l'apprentissage du français. Et donc, les premières années, on utilise les langues locales, là où ils sont, et petit à petit, on introduit le français comme langue, comme matière d'enseignement. Et donc, au bout de 3 ans ou 4 ans, on leur enseigne dans leur propre langue, mais on leur enseigne le français également comme matière. Et au bout de 3 ou 4 ans, ils doivent être en mesure de parler français un peu et de comprendre maintenant les enseignements qu'on leur donnerait en français. Donc ça, c'est une partie de la cohabitation entre le français et nos langues
nationales. On peut dire que cette cohabitation se passe plutôt bien.
Oui, ça passe plutôt bien, même s'il y a beaucoup de défis. Et l'un des défis, c'est justement le problème de manuels scolaires, des livres. Vous savez, nous sommes dans un grand pays avec une démographie qui s'accélère. La population augmente très, très, très vite. Imaginez-vous simplement pour un manuel scolaire si on doit produire un manuel pour un niveau d'enseignement, par exemple, deuxième année primaire, mais c'est des millions d'enfants. Et donc, des millions de copies pour un seul manuel, et ça coûte effectivement très, très, très cher. Ça, c'est l'un des défis auxquels nous sommes confrontés en tant que nation, en tant que pays. Mais c'est effectivement notre responsabilité. Nous devons y faire face. Et nous devons trouver le moyen pour à la fois promouvoir les Français, mais aussi promouvoir nos langues nationales. Et je termine en disant que les recherches ont montré, notamment dans le cadre du programme ÉLAN, ÉLAN signifie École et Langue Nationale, c'est un programme qui est mis en œuvre par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Les recherches ont montré que les enfants apprennent mieux le français quand ils commencent l'apprentissage dans leur propre langue. Oui. Et donc, c'est ce défi-là que nous devons, auquel nous devons faire face, trouver les ressources, les moyens nécessaires pour promouvoir à la fois les Français et nos langues locales, nos langues nationales.
D'accord. Monsieur l'ambassadeur de Suisse, un mot là-dessus?
Je suis tout à fait d'accord, évidemment, avec mes collègues aussi, pour dire que l'éducation reste la clé à tout succès et développement, et l'éducation notamment aussi des langues. Je pense que la diversité de langues, ça fait partie aussi de la richesse francophone de manière générale. Là, on n'a pratiquement aucun pays francophone qui est à 100% francophone. La grande partie de nos pays, il y en a plusieurs langues, même officielles, au niveau de nos pays. Et c'est aussi cette richesse-là, je pense, qui est quelque chose qui rend cette francophonie unique. Hein, que le français, peut-être aujourd'hui, même si c'est la cinquième langue au monde, n'est peut-être plus parlé autant que dans le temps et que sur Internet, etc., l'anglais est devenu plus important. Oui, c'est un fait, mais à la fin, la richesse, le fait de connaître d'autres langues, c'est une clé qui nous ouvre à d'autres cultures, qui nous rapproche des gens et qui nous permet aussi de mieux comprendre ce qui se passe dans le monde.
Mmh. Monsieur l'ambassadeur Rachid, oui, Agassim, oui, du Maroc.
Merci. Moi, je félicite votre radio parce que ça a suscité un intérêt auprès du public. Mmh. Et j'ai noté 5 questions qui démontrent l'intérêt que porte le public congolais à la langue française. Là, par exemple, on remarque qu'il y a un auditeur qui critique que tout se passe à Kinshasa. Ça, c'est un fait, parce que c'est la capitale, c'est une grande capitale. Mais là, je crois que avec un effort conjoint entre les autorités RD congolaises et le groupe des ambassadeurs francophones, on peut faire un effort dans ce sens. Une deuxième question, ils ont relevé aussi, ils ont comparé plutôt l'anglais au français. C'est-à-dire, c'est comme si on a dit la langue française est figée quelque part, alors que l'anglais c'est devenu la langue de l'économie, la langue internationale, la langue de l'internet. Parce que comme mon ami Chasper a dit, le français c'est la cinquième langue, mais en termes d'internet, le français est quatrième. Donc il y a des chemins.
Monsieur Rachid, on dit que la langue française est en déclin, notamment par son utilisation limitée, voire absente des grandes rencontres internationales.
Je dirais pas déclin. Le français est le français et il reste ce qu'il est. Parce que maintenant, c'est l'importance économique et puis numérique qui donne cet avantage. Il y a un certain avantage quelque part. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a du chemin à faire. On peut pas dire qu'il est en déclin. Parce qu'on a, plus de 300 millions de locuteurs en français, c'est pas rien. Et puis, ce que j'ai remarqué aussi, il y a une conscience politique concernant cette journée. On a des auditeurs qui ont relevé le fait que l'OIF est attribué à un pays anglophone. Là, je dirais, et ça c'est une position de mon pays, l'enjeu de l'OIF réside dans le processus de sa transformation d'une organisation politique et culturelle à une organisation à vocation économique et numérique, engagée notamment dans les différents processus de l'agenda économique mondial, du développement durable et de l'intégration économique des pays de l'espace francophone et en particulier africain. On dit africain parce que la majorité, il y a 24 pays qui sont concernés. Donc c'est en termes de population, la majorité est en Afrique. Et on remarque aussi de par les quelques questions posées par les auditeurs, qu'il y a des lacunes. Et les lacunes, c'est par exemple, il faut une certaine restructuration de l'OIF. On a remarqué que la plupart des auditeurs s'adressent à l'ambassadeur de France
oui.
Parce qu'on associe la francophonie à la France. Ça aussi, c'est une problématique. Et je crois que prochainement, surtout lors du sommet de la francophonie, on va ouvrir le débat.
D'accord. Merci. Bien. Monsieur Mbengue Moli, deuxième conseiller à l'ambassade du Cameroun, votre avis par rapport à cette question-là?
Oui, merci. J'interviens sur cet aspect du déclin supposé de la langue française en relevant qu'il y a certes manifeste qu'on peut noter dans les instances internationales ou bien dans les transactions au quotidien à travers le monde une prégnance de l'anglais. Mais je vous ferai part d'une technique, expérience personnelle. J'ai eu le privilège d'être formé pour une part de ma formation académique en Amérique latine. en Argentine notamment. Et j'ai été surpris. J'ai été surpris par le côté séducteur du français dans cette concrète-là. Beaucoup de mes camarades de l'Académie diplomatique d'Argentine avec qui je fréquentais, choisissaient le français comme langue étrangère seconde. Et quand je leur demandais, mais pourquoi vous apprenez le français? Qu'est-ce que vous intéressez dans le français? Ils me disaient, le français romantique. Alors je...
D'abord?
Oui. Ils me disaient, le français romantique, et ça me surprenait un peu. Mm-hmm. Et juste pour vous indiquer que il y a des concrets dans le monde où le français a encore de l'attirance. Mm-hmm. L'Amérique latine est une zone où la prégnance américaine, donc anglo-saxonne, est forte. Mais lorsque un homme veut s'estimer cultivé, distingué, il préfère parler français.
Par exemple, lorsque le Cameroun prend la parole dans les grandes rencontres internationales, vous exprimez en quelle langue? C'est en anglais ou c'est en français?
Oui, c'est un avantage du Cameroun. Comme vous le savez, le Cameroun a deux langues officielles, le français et l'anglais, du fait de son histoire. Et de façon invariable, en fonction de l'auditoire qu'on a en face de soi, on peut choisir de s'exprimer en français si on estime que le message est mieux perçu en français, ou en anglais si on estime que le message sera mieux perçu en anglais, parce que c'est important de se faire comprendre. Donc nous n'avons pas une préférence linguistique particulière, mais nous savons, n'est-ce pas, jouer sur ce tableau à deux claviers pour pouvoir, n'est-ce pas, faire valoir nos positions de par le monde. Donc, le français et l'anglais, dans la culture camerounaise, sont des langues d'égale valeur. Donc, je ne saurais incliner pour un côté ou pour l'autre.
D'accord. Mais... Voilà, je pense que je vais poser la même question à tous les ambassadeurs qui sont ici. Monsieur...
Si vous permettez, j'aurais voulu...
rebondir sur un autre
aborder
aspect.
Aborder sur un aspect qui a créé, n'est-ce pas, à la promotion des écrivains. C'est une réflexion que je fais. Je ne sais pas si les autres la font, mais je note quand même mondial. Je me souviens, moi j'ai lu au lycée, mais si vous me demandez actuellement, mais dans la génération, on peine à chercher l'écrivain qui est, ma foi, de culture, un vecteur important d'influence. Je crois qu'on pourrait un peu s'y pencher pour voir si c'est pas aussi là un des côtés par lesquels on peut, n'est-ce pas, actionner un levier pour remettre, n'est-ce pas, au goût du jour, n'est-ce pas, l'expression culturelle francophone. C'est une réflexion, on peut la partager et la continuer. Merci.
Bien, Monsieur David Tonon, dans les rencontres internationales, lorsque votre pays prend la parole, c'est pour s'exprimer en français ou c'est en anglais ou dans d'autres langues?
Avec un peu d'humour, je vous parlerai bien du néerlandais, mais ce n'est pas le propos de la journée. Nous avons trois langues nationales d'ailleurs en Belgique, hein, le français bien entendu, le néerlandais et l'allemand. Écoutez, en tout cas à Bruxelles, le centre est un des grands centres internationaux, des grandes organisations internationales, puisque c'est la capitale de l'Union européenne, le siège de l'OTAN, et donc oui, le français en tout cas est une des langues officielles, donc les documents sont traduits et on peut s'exprimer, beaucoup s'expriment en français d'ailleurs. Maintenant, il est vrai que beaucoup de personnes parlent l'anglais, mais je dirais que la francophonie et le club des pays qui parlent le français ont quand même quelque chose de spécial que les autres n'ont pas. Nous sommes... Collectivement, hein, il y a quelque chose qui nous relie tous du point de vue de nos valeurs. On a des valeurs qui sont quand même très largement communes et qui sont des valeurs plus humanistes que les pays anglophones. Et le français est certainement au sein de la francophonie, alors là de l'organisation de la francophonie, c'est pas le français tout puissant, c'est le français à côté avec les langues nationales des pays. Donc il y a vraiment un enrichissement qui doit se faire, et d'ailleurs il y a pas mal de mots qui n'étaient pas français, qui ont intégré, qui ont pénétré, qui sont rentrés dans le français. Donc je dirais que ce sont vraiment des éléments, et puis comme le disait Rachid, la francophonie ce n'est pas la France, la francophonie c'est tous ceux qui parlent le français, dont la France bien entendu, qui en est quelque part le berceau. Mmh. Mais depuis, le bébé a bien grandi. Et,
Monsieur David Tonon, on va marquer une pause. On va suivre les informations, 5 minutes, et puis on va revenir dans ce studio pour la deuxième partie de cette émission sur la célébration de la Journée internationale de la francophonie. Merci de rester à l'écoute du magazine Okapi Service. Monsieur, ravi de vous retrouver dans cette deuxième tranche du magazine de la vie au quotidien au Capi Service, émission spéciale Journée internationale de la francophonie. Et nous avons l'honneur d'accueillir les ambassadeurs de pays francophones dans ce studio. Ils sont venus échanger avec vous par rapport à cette journée. Vous voulez participer, le standard est déjà ouvert, composez les 099-706-9941, écrivez-nous à service@radiocapi.net et laissez un commentaire sur la page Facebook de l'émission au Capi Service. Tati Mapoukou assure la coordination et la réalisation de cette émission, Jody Daniel Kachama au micro, et toute l'équipe vous dit merci pour votre fidélité à ce magazine de la vie au quotidien. Jean-Noël Moukoundou à la mise en onde.
Grâce à Internet, la radio d'aujourd'hui s'écoute aussi quand vous êtes disponible et pas seulement en direct. Radio-Okapi.net, téléchargez et conservez vos émissions préférées. Dialogue entre Congolais, Parole aux auditeurs et Okapi Service. Téléchargez l'émission de votre choix, vous l'écoutez quand vous le souhaitez. Radio-Okapi.net, la radio en différé à votre service.
Bien, la Journée internationale de la francophonie est célébrée le 20 mars de chaque année dans les pays francophones. Des centaines d'événements sont ainsi organisés pour mettre en lumière la diversité et la vitalité de la francophonie. Alors, la date du 20 mars fait référence à la naissance en 70 à Niamey, au Niger, de l'Agence de coopération culturelle et technique qui allait devenir ensuite l'Organisation internationale de la francophonie. Et en 2024, en cette année, le sommet de la francophonie de Villers-Cotterêts aura pour thème « Créer, innover, entreprendre en français ». Voilà, nous allons échanger à ce sujet avec nos invités, messieurs les ambassadeurs. Nous vous remercions encore pour votre présence dans cette émission radiophonique consacrée à la Journée internationale de la francophonie qui est célébrée chaque 20 mars. Alors, une question à monsieur l'ambassadeur de France, Bruno Aubert. Le prochain sommet de la francophonie se tiendra en France, le 4 et le 5 octobre à Villers-Cotterêts. Pouvez-vous nous dire, monsieur l'ambassadeur, ce qui est prévu pour ce 19e sommet et pourquoi à Villers-Cotterêts?
Alors, d'abord, un rappel en phase avec tout ce qui a été dit. La langue française de la francophonie, c'est l'affaire de tous les francophones. Et la France, là, se met au service de tous les francophones et de la langue française. Mmh. Donc, il se trouve que ça se passe en France cette fois-ci. Donc, je vais vous en parler. Donc, effectivement, le sommet se déroule le 4 et 5 octobre. Il est centré sur Villers-Cotterêts.
Merci d'être devant votre micro.
Villers-Cotterêts, c'est pas très loin de Paris, mais ce n'est quand même pas à Paris. Et c'est une ville c'est un lieu qui est connu pour avoir été le lieu de la signature par le roi François Ier d'une ordonnance qui déclarait le français langue officielle pour les actes juridiques en France. C'était au XVIe siècle, c'était en 1539. Et le président de la République, le président Macron, a inauguré dans ce lieu, il y a un château, la Cité internationale de la langue française. Donc ce château, ce lieu, est devenu la Cité internationale de la langue française. Donc il y aura une partie qui se déroulera là, et l'autre partie se déroulera effectivement à Paris, au Grand Palais, dont la restauration vient juste d'être achevée. Voilà, donc c'est un... Vous l'avez dit vous-même, le slogan fondateur du sommet, il est très axé sur la création, l'innovation, l'entreprise. Mm-hmm. Donc on peut déceler une intention entrepreneuriale très forte, mais ça se limite pas à ça. C'est pas uniquement les questions économiques. Nous souhaitons vraiment que ce sommet réponde à plusieurs enjeux. D'abord, dans le domaine politique, il soit un espace de dialogue inclusif, respectueux, partenarial. Et donc, il y a une dimension géopolitique forte, hein, dans le champ économique, parce que nos entreprises s'internationalisent toujours plus, et ça nous concerne tous. Dans le champ numérique, on a vu que c'est quand même à travers le numérique que les expressions linguistiques trouvent une vitalité particulière, notamment dans les jeunes générations. Mmh. Et puis, dans les champs culturels, ce qu'on appelle aujourd'hui la question identitaire, on mettra naturellement en lumière, en valeur, le fait que le français agit avec les autres langues. Et comme ça a déjà été dit, à l'exception peut-être de la France, tous les autres pays francophones, en fait, sont des pays qui vivent en leur sein l'interaction entre plusieurs langues. Les francophones sont le locuteur de plusieurs langues. Mmh. Voilà. Et donc c'est ça qui domine l'expérience de la francophonie à l'échelle globale. C'est une expérience du plurilinguisme. Donc nous, on souhaite qu'il y ait, que ce soit l'occasion d'afficher une nouvelle ambition pour le français, et qui passera surtout à travers l'enseignement de la langue française dans le monde. Et là, nous sommes tous concernés. Et là, je réponds à un auditeur de tout à l'heure qui m'interpellait sur cette question de l'éducation et de l'enseignement. Nous sommes tous d'accord pour considérer que l'éducation est fondamentale, mais c'est l'affaire de tous. La France et d'autres pays, par ses coopérations éducatives, y participent. Ils participent en dehors de son territoire, mais c'est d'abord la responsabilité de chaque État. Bon, ce qui est important aussi, c'est d'accompagner les transformations de la francophonie. Et donc, on a l'intention, enfin, l'OIF est en train d'organiser un festival de la francophonie, toute une série d'événements parallèles à caractère culturel, où seront traitées donc les questions du numérique, de l'intelligence artificielle, et qui permettra d'associer notamment des jeunes créateurs, des entrepreneurs, des artistes, des chercheurs. Ce qui est important également, c'est de décentrer la francophonie. Et donc, même si ça a lieu en France, si en France l'actualité va être très chargée, l'actualité internationale, avec les Jeux Olympiques, avec l'achèvement du chantier de restauration de Notre-Dame de Paris, notre intention, nos discours et la manière d'organiser avec l'OIF le sommet, c'est de mettre en valeur justement ce décentrement, ce polycentrisme de la francophonie. Mmh. Et puis, enfin, d'une certaine manière, la transcender au sens où la francophonie, comme nous l'avons déjà dit, c'est pas uniquement la langue française, c'est l'interaction avec les autres langues. Et c'est ça, en fait, qui fait d'une certaine manière la richesse du français. Mmh. Et ça, c'est un point que je voulais évoquer, d'ailleurs en écho avec ce que notre ami camerounais nous disait sur le sentiment qu'il avait recueilli de ses amis argentins. Mmh. C'est que je pense qu'il ne faut pas comparer de manière frontale le français à l'anglais. Le français a des vertus très particulières. D'abord, nous avons 320 millions de locuteurs, ce qui est considérable, mais en même temps, c'est pas l'échelle du mandarin ou même de l'anglais. Mmh. D'accord ? Mais avec ça, nous sommes présents sur tous les continents. Avec ça, la langue française est la deuxième langue la plus apprise dans le monde. Donc ça signifie qu'il y a un élément de prestige, je reviens à ce que vous disiez, qui reste très fort. Un élément de prestige, de quelque chose qui est associé à une qualité particulière de cette langue, qui donne une plus-value à ceux qui l'apprennent. Et effectivement, beaucoup de gens, il y a plusieurs dizaines de millions d'étudiants dans le monde qui font le geste de l'apprendre comme deuxième langue. Et là, il y a quelque chose sur lequel il faut réfléchir. Et je crois que ce sera vraiment au cœur d'ailleurs du travail qui sera effectué au cours de ce sommet.
Voilà, ce sommet-là. D'accord. Alors, c'est cette année la thématique de la journée de la francophonie, et créer, innover, entreprendre en français. Pensez-vous que la francophonie a un rôle à jouer dans les développements économiques? Peut-elle jouer un rôle majeur dans les échanges commerciaux? Monsieur Chasper, ambassadeur de Suisse, vous avez la parole.
Merci. Écoutez, certainement, je pense que la francophonie a plein de domaines où elle peut jouer un rôle. C'est pas simplement le partage de la langue commune, non, mais c'est basé sur les valeurs. Donc évidemment, dans ce domaine-là, et je pense que l'économie et notamment aussi le domaine numérique sont certainement des champs d'action qui sont très, très intéressants pour tous les pays membres de la francophonie et notamment aussi, je pense, pour les pays africains. De développer ces échanges entre les pays africains. Si on regarde aujourd'hui notamment aussi les statistiques du commerce de la RDC, l'échange commercial qui se fait avec les pays voisins, il n'a pas la plus grande importance, mais on a des voisins qui sont francophones aussi ici. Donc dans ce domaine, il y a certainement beaucoup de potentiel.
Monsieur Dorossi, ambassadeur du Sénégal, votre avis sur la thématique?
Alors, par rapport à ce qui a été mis en avant par rapport au sommet de France, de la francophonie en France, la question qu'on peut légitimement se poser, c'est que quels sont les moyens qu'on met en face pour atteindre ces objectifs? C'est vrai que c'est à ce niveau, je pense, qu'il faut qu'une réflexion forte soit mise en avant. L'ambassadeur France l'a dit par rapport au mandarin ou à l'anglais, on a l'impression de ne pas être dans les mêmes sphères d'ambition ou de développement. C'est vrai que le monde économique est totalement pris par ces deux mastodontes linguistiques, que ce soit l'anglais ou le mandarin. Mais je pense que au niveau de la francophonie, on doit travailler surtout à essayer d'avoir des objectifs où, d'une part, les États peuvent avoir leur politique nationale à ce niveau-là, que ce soit au niveau de l'éducation et autres, mais au niveau de la structure de la francophonie, je pense qu'il faut qu'il y ait un effort assez soutenu pour pouvoir pousser nos objectifs et nos ambitions dans ce cadre-là.
Par rapport aux échanges commerciaux, économiques.
Absolument. Mais à ce niveau-là, on peut avoir que des ambitions assez limitées. Parce que c'est vrai que certains de nos représentants les plus prestigieux dans les sphères internationales, il faut vraiment insister pour qu'ils puissent s'exprimer en français, quoi. Donc ça aussi, c'est un travail qu'on doit faire à ce niveau-là.
D'accord. Il y a un auditeur en ligne, Ramazani, depuis Fongroumé, dans le Lualaba. Monsieur Ramazani, bonjour. Monsieur Ramazani, vous êtes en ligne, bonjour. Désolé, il n'est plus là. Monsieur Mabia Lamaoumba.
Oui, je voulais revenir sur la dimension économique.
Oui.
Je crois que ça, c'est... je précise d'abord que c'est une attente très, très importante de la jeunesse francophone. J'ai eu la chance d'être directeur de l'éducation de la jeunesse à l'OIF. Et quand je rencontrais les jeunes, ils disaient clairement que l'anglais les attirait parce que c'était... L'anglais offrait des opportunités d'emploi. Et donc, l'attente était que quand est-ce que le français va être un plus pour que ça puisse ouvrir aussi des portes. Et je crois que ce virage-là est en train d'être amorcé. Dernièrement, il s'est tenu à Yaoundé, au Cameroun, la conférence ministérielle de la francophonie qui a adopté la programmation de l'OIF pour les 4 prochaines années. Et dans cette nouvelle programmation, c'est vraiment affirmé de façon très claire en termes de programme, en termes d'activités, les renforcements de missions économiques et commerciales et qui ont déjà été amorcés. Par exemple, cette année, il y a des missions en cours de préparation qui ont eu lieu en Roumanie et au Québec, au Canada. Et l'idée, c'est de favoriser les échanges entre entrepreneurs au sein de l'espace francophone. Et ça, c'est effectivement, c'est quelque chose qu'on doit continuer, qu'on doit encourager. De la même manière, l'intérêt, l'emphase sur le numérique.
Bien. Et comment arriver à mettre en œuvre ces échanges commerciaux dans l'espace francophone? Monsieur David Tonon, quel est votre avis là-dessus?
Ben écoutez, 320 millions de francophones, c'est déjà 320 millions de clients potentiels. Donc ça, c'est quand même quelque chose dont il faut parler. Ensuite, Oui, j'entends l'anglais, langue de l'emploi, en dehors de la RDC. Parce que c'est pas ici. Donc je veux dire, nous avons, nous en tout cas, et là je parle pour Wallonie-Bruxelles, nous avons, mais on n'est pas les seuls, hein, nos amis français font la même chose, on essaie de tout faire pour booster l'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat ici, parce que notre objectif en étant ici, c'est de faire en sorte que le pays soit plus heureux, et que les Congolaises et les Congolais soient plus heureux, ici. Et donc voilà, ça c'est peut-être quelque chose qui est particulier de nouveau à cet espace francophone. Pardon, cet espace francophone qui nous permet de parler les uns avec les autres. Si vous devez vendre votre produit à un Chinois ou même à un Anglais, il faut d'abord apprendre l'anglais. Tandis que les Congolais qui vont vouloir vendre leur produit à un Belge, je pense que ça, ou un Marocain ou un Sénégalais, ce sera tout de suite beaucoup plus simple. Donc c'est vraiment des forces. Et puis ce que vous avez au Congo, qu'on a beaucoup moins chez moi en Belgique, c'est que vous avez une belle et grande jeunesse. Elle est belle, elle est grande, elle est très nombreuse. On se rend bien compte que l'avenir, c'est le numérique, c'est tout ce qui se passe au niveau commercial, à travers Internet, à travers les réseaux sociaux, à travers l'intelligence artificielle. Et pour eux, c'est normal, ils naissent avec. Moi, je suis un vieux radada, hein, je viens d'un temps où la télévision devait chauffer avant de pouvoir s'allumer. Donc voilà. Donc je dirais que le Congo a vraiment, la RDC a vraiment des atouts. Elle a vraiment des amis. Elle a beaucoup d'amis francophones qui ne demandent qu'une chose, c'est aider et à faire en sorte que ça démarre, que ça décolle. Et moi, j'engage les Congolaises et les Congolais à pousser leurs envies, pousser leurs rêves et pousser leur inventivité, y compris dans le domaine du commerce. Mais de grâce, développez-le ici pour faire grandir le tissu économique congolais et que de plus en plus de gens puissent en vivre.
D'accord. On va accueillir un auditeur, Augustin Dianda de Kananga. Bonjour. Augustin, vous êtes en ligne, bonjour. Oh, désolé, il n'est plus en ligne. Je reviens à vous, Monsieur Rachid Agassim, ambassadeur du Maroc. Là, par rapport à cette thématique de la journée de la francophonie, créer, innover, entreprendre en français. Donc, on peut dire que l'accent sera beaucoup plus mis sur les aspects commerciaux.
Bien évidemment, c'est ambitieux, mais c'est faisable. Et surtout, quand on parle de l'économie, c'est la chose la plus importante, bien sûr, après l'éducation. Comme a bien précisé mon cher ami David, mais moi je dirais que ça ne dépend pas seulement du nombre. Nous sommes 321 millions de locuteurs francophones, mais si on s'en prend seulement au nombre de la population, on ne pèse rien devant la Chine ou l'Inde. Moi je dirais autrement, c'est-à-dire le français en tant que langue peut réussir. C'est-à-dire la thématique peut réussir. Il faut seulement innover et il faut s'inscrire dans la modernité. Il faut évoluer certaines de nos structures dans l'OUF. Quand on prend le Japon par exemple, ils ont réussi économiquement à l'international. C'est pas parce que les gens parlent japonais, pas du tout. Ou bien même les Chinois. Est-ce que les gens parlent chinois ici en Afrique? Tout est fait.
Les échanges se font souvent en anglais.
Non, moi je parle de la langue. D'accord. Mais qu'est-ce qui empêche le français de faire comme l'anglais en tant que vecteur du monde des affaires? C'est-à-dire, moi je suis très optimiste et c'est faisable. Ce qu'il faut, c'est revoir un peu nos structures. Même penser à l'appellation elle-même francophonie, parce que quoi qu'on dise, elle est attachée au pays qui est la France. Comme a été bien précisé par Bruno, la francophonie elle n'est pas seulement l'affaire de la France, c'est de 88 pays. Donc il faut innover, il faut changer, et je le répète, il faut dissocier la francophonie de la France. Comme on prend par exemple, vous avez dit l'anglais, Commonwealth, ça attire, ça interpelle, ça intéresse. Donc il faut penser à une appellation, peut-être, pour changer, moi je suis en train un peu de philosopher, pour changer un peu la francophonie et mettre quelque chose en place.
D'accord. Monsieur Jacques Mbengue, votre réaction?
Je crois que pour l'essentiel, je souscrirai à l'intervention de l'ambassadeur Gassim, qui, ma foi, relève un aspect important au niveau, n'est-ce pas, de l'institution. Francophonie, renvoi français à la France. Le monde anglais aurait pu faire pareil, mais ils ont choisi une formule plus subtile qui, ma foi, semble neutre, quoique réunissant autour de l'anglais. Donc, je crois que la réflexion de l'ambassadeur Gassim est tout à fait pertinente et appropriée. Mmh. Et le sommet qui arrive, ma foi, pourrait s'y pencher de façon pertinente.
D'accord. Alors, nous vivons dans un monde numérique. Pensez-vous que la francophonie est prête pour relever les défis du numérique aujourd'hui, Monsieur Bruno Aubert, ambassadeur de France?
Bah, j'en suis absolument persuadé. D'ailleurs, moi, c'est une conversation que j'avais récemment avec les autorités congolaises dont on charge la francophonie. Et je comprends que dans ce pays, nous avons dit à quel point, ici, avec la jeunesse, 70% de la population de 110 millions d'habitants est composée de moins de 25 ans. Il y a des gisements d'intelligence considérables. Et en dépit des difficultés que connaît le secteur éducatif, bon ben, il y a des jeunes qui sont extrêmement entreprenants, et notamment dans le domaine du numérique, de l'intelligence artificielle, et des jeunes filles autant que de jeunes garçons. Donc, moi, je pense qu'il y a un potentiel considérable et qu'on peut facilement mettre en mouvement ce potentiel, qu'il ne faut pas grand-chose. C'est une question de volonté et d'organisation.
Oui. Voilà. D'accord. Monsieur Chasper, votre réaction par rapport au numérique. Est-ce que la francophonie est prête à relever les défis du numérique aujourd'hui?
Écoute, qui est prêt aujourd'hui? Mais la francophonie travaille. En 2023, il y a eu un groupe de travail qui a été initié par la Suisse pour notamment renforcer l'action de la francophonie dans le champ du numérique. Mais il y a plusieurs axes prioritaires. Il y a aussi un centre de l'OIF qui a été créé en 2024 à Genève pour travailler sur cette thématique et renforcer notamment le domaine numérique dans le multilatéral. Donc c'est des travaux qui sont en cours. La RDC fait partie aussi de ce groupe de travail qui a été initié par la Suisse.
Monsieur Mabiela.
Oui, je confirme effectivement qu'il y a une réflexion stratégique en cours. Il y a même déjà eu, qui a été adoptée, la stratégie du numérique pour la francophonie. C'est très important. Et pour notre pays également, nous nous intéresserons dans cette perspective-là, parce que comme vous le savez, il y a 4 ans, une stratégie nationale qui a été du numérique qui a été adoptée chez nous, mise en place, et qui est en train d'être opérationnalisé, mise en pratique, aussi bien au niveau de la législation. Il y a des structures qui ont été payées, par exemple l'Agence nationale du numérique, il y a une loi qui a été prise, qui a été votée, et ainsi de suite. Et donc il y a toute une dynamique qui est amorcée, parce que, qu'on le veuille ou non, le monde de demain sera dominé par le numérique et l'intelligence artificielle, comme on vient de le rappeler tout à l'heure.
Monsieur l'ambassadeur de Rossi, du Sénégal.
Alors, je vais simplement être en phase avec ce que mes collègues ont noté comme élément. À mon avis, le monde du numérique, de l'Internet, c'est le monde le plus démocratique et le plus ouvert, à mon avis. Et c'est à ce niveau-là que on pourrait faire des choses incroyables pour ce qui concerne notre communauté francophone. C'est pourquoi je reviens toujours à mon idée. La francophonie doit insister énormément à la base. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est au niveau de la maternelle, c'est au niveau du primaire, c'est au niveau du secondaire qu'on peut faire des révolutions. C'est à ce niveau-là qu'il faut insuffler des programmes didactiques qui donnent finalement une identité communautaire de la francophonie. Mmh. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut travailler. Je vous donne un exemple. Moi, qui suis sénégalais, avec le président Léopold Sédar Senghor, qui fait partie des pères fondateurs de la francophonie, quand je fais des éléments de comparaison entre moi et mon fils ou mon petit-fils, mais on ne parle pas le même français. C'est une différenciation totale. Mmh. Au Sénégal, actuellement, on a tendance presque à ne plus comprendre le français comme on le comprenait avant.
Et pourquoi?
Alors, pourquoi ça? C'est des questions, je pense, qui sont transversales, qui peuvent être vues un peu partout, hein, sur toute la communauté. Mais je pense que il y a beaucoup d'éléments. C'est peut-être la dépréciation de l'enseignement, mais il y a aussi peut-être la configuration du monde actuel. Il y a moins de présence du français. Les langues nationales sont beaucoup plus importantes au niveau éducatif. Et c'est à ce niveau-là que le français n'est plus perçu comme étant la porte d'entrée pour accéder à certains niveaux. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut rectifier. Moi, quand j'échange ici avec nos frères congolais, j'ai l'impression que le français, il est parlé, mais quelquefois, on ne comprend pas, on se comprend pas. C'est-à-dire, j'ai pas l'impression que le français est totalement présent au niveau de la jeune génération. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut percevoir les alertes par rapport à la francophonie. Mmh. Il faut travailler, que ce soit tout le monde, hein, que ce soit le Sénégal, que ce soit la France. Et c'est au niveau le plus élémentaire, c'est à ce niveau-là qu'il faut agir pour faire triompher la francophonie. Sinon, à mon avis, je perçois une déperdition qui va avoir lieu d'ici 30 ans, d'ici 40 ans, où on ne verra plus les trucs. Dernier exemple, tous les programmes qu'on perçoit par rapport à la francophonie, j'ai l'impression que c'est des programmes qui visent une certaine
classe.
Non, pas une certaine classe, mais un certain âge, classe d'âge. Mmh. C'est-à-dire que quand on fait l'islam, c'est vrai qu'on ne s'adresse pas surtout aux enfants. On s'adresse par exemple à des personnes qui sont aguerries dans la lecture, la littérature, les cultures phoniques, que ce soit éventuellement le cinéma. C'est un ciblage qui n'est pas adapté à mon avis. Mmh. Et on risque d'avoir cette déperdition entre le haut et le bas.
Et le bas. D'accord. On va accueillir les auditeurs. Achille, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour.
Oui, bonjour, M. Jody. Bonjour aux ambassadeurs.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Ouais, bon, je vous ai pris à court de diffusion, mais je sais pas. J'ai quand même une question posée. La question s'adresse à M. Mabiala. Et il y a un article que j'ai lu ce matin qui annonce que la RDC n'allait pas tenir la cérémonie officielle de la journée internationale de la francophonie cette année. Est-ce qu'il peut nous confirmer cela?
Bon, on en a déjà parlé.
Si oui, ok. Si oui, qu'est-ce qui motive cette décision?
D'accord.
J'avais une autre question parce qu'il s'agit des ambassadeurs. Et dernièrement, nous avons suivi que les ambassades ont été la cible des attaques des manifestants qui manifestaient, je ne sais pas, qui dénonçaient leur silence face à l'agression rwandaise. Parce qu'il s'agit des ambassadeurs. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire? Est-ce qu'ils ont une petite explication à nous donner quant à ce? Merci, bonne journée.
Bien, merci Achille de Lumbashi. Monsieur Mabiala, vous avez la parole.
Merci beaucoup. D'abord, je commencerai par présenter très sincèrement mes excuses aux ambassadeurs qui sont ici à la communauté internationale suite à ces manifestations regrettables. Il n'y a rien, absolument rien, qui puisse justifier non seulement ces manifestations, mais aussi et surtout ces saccages qu'on a vu. Et c'est extrêmement regrettable et nous renouvelons nos profondes excuses à ce sujet. Et je profite de l'occasion pour dire que peut-être que nous ne faisons pas assez, nous, le gouvernement, pour expliquer à la population que la communauté internationale qui est ici est venue pour nous aider. Les ambassades qui sont, les pays qui sont ici sont là justement, comme je le disais au début, pour soutenir nos efforts de développement, pour coopérer avec nous, pour travailler avec nous. Donc c'est important et que les gens n'oublient pas quand on demande le départ de telle ou telle ambassade ou de telle ou telle organisation. Les gens oublient que derrière ces organisations, ces ambassades, il y a des Congolais qui vivent de ça, qui travaillent dans ces ambassades, qui sans ces emplois, ils seraient dans une situation beaucoup plus difficile. Donc je ferme cette parenthèse en espérant que ce genre de manifestations ne se répéteront plus. Alors, la manifestation, il y a eu un communiqué qui est très clair. Il n'y aura pas de cérémonie officielle pour célébrer le 20 mars. Cependant, nous encourageons la société civile à organiser ses activités comme prévu. Et j'ai donné des exemples de beaucoup d'organisations qui ont prévu des activités comme le concours d'autographe, etc. Et ces activités, nous n'avons aucun intérêt à les supprimer. Ils doivent continuer. C'est très, très, très important. Et je répète, parce que nous sommes un pays francophone. Mmh. Le français, c'est notre langue nationale. Et l'Organisation internationale de la francophonie, c'est notre organisation aussi. Et je rappelle à ce sujet qu'après la France, nous sommes le plus grand pays où on trouve le plus grand nombre de locuteurs, c'est-à-dire des personnes qui utilisent le français au quotidien, chaque jour.
Mmh. Voilà. Bien, une question que je vais adresser à M. David Tonon, délégué de Wallonie-Bruxelles. La francophonie est-elle, selon vous, un espace de coopération et de solidarité? Comment le pays que vous représentez met en œuvre cette coopération et cette solidarité en RDC?
Alors, tout à fait. On est vraiment ici en coopération et en solidarité et en amitié. Et ça se décline de beaucoup de manières. Je disais qu'on recevait chez nous au centre des artistes congolais, des écrivains. On essaye de les faire connaître, de les pousser. Mais c'est également un programme de formation des maîtres à distance. Hein, donc, à travers le numérique, parce que le numérique, c'est la bonne nouvelle pour le Congo. On disait tout à l'heure que les livres, c'est, il y en a pas beaucoup et c'est difficile à transporter. Mais beaucoup de Congolais ont ce qu'on appelle des téléphones intelligents, pour ne pas utiliser le mot smartphone, puisqu'on a décidé que l'anglais n'était pas le persona grata tout à fait ici, aujourd'hui, autour de la table. Ça veut dire que ça offre des possibilités immenses, y compris en matière commerciale, pour faire le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure. Mmh. Donc oui, Wallonie-Bruxelles, la Belgique, l'Europe, le monde, je pense, mettent beaucoup d'efforts et beaucoup d'efforts financiers pour faire en sorte d'aider ce beau et grand pays à décoller plus vite, parce qu'il décolle. C'est vrai qu'aujourd'hui, pratiquement, si on fait le calcul, un francophone sur trois est congolais. Et oui, on ne demande qu'une chose, c'est que le Congo soit plus au balcon. Et parle plus fort et nous aide tous, parce que vous avez, vous, beaucoup de choses à nous apporter. Je dis souvent à mes ministres, il faut qu'on se rende compte que nous avons davantage besoin du Congo dès aujourd'hui et demain que l'inverse. Et c'est vraiment un message auquel je crois.
Mmh. Et on va accueillir un autre auditeur, Dieudonné Tshibangu de Kinshasa. Bonjour Dieudonné.
Bonjour, c'est Dieudonné Tshilombo Tshibangu.
Dieudonné Tshilombo Tshibangu, quelle est votre question?
Merci beaucoup, M. Joly, pour cette thématique. En tout cas, vraiment, je vois que nos dirigeants ont l'amour de ce pays et ils sont conscients de ce qui se passe à l'est du pays. Ils ne sont pas contents, vous laisse dire. Je salue d'abord la décision prise de ne plus et commémorer cette journée ou cette semaine de la francophonie. C'est jeudi, parce que ça ne fait jamais la joie de fêter ou d'en parler même de la francophonie aussi longtemps que la France ne manifeste pas sa solidarité envers nous, le pays où il y a beaucoup de locuteurs. Et par là, j'aimerais d'abord poser la question à notre invité au studio. Qu'est-ce que le gouvernement prévoit, peu importe qu'ils nous ont contacté, de fêter cette journée, d'en parler, de commémorer, on peut dire, qu'est-ce qu'ils ont préparé comme un plan B après avoir rejeté cette date que nous commémorons avec tristesse avec nos confrères et sœurs de l'Est? Ils ont préparé quoi dans l'avenir pour rapprocher la France, pour lui montrer que non, personne ne nous aide, personne ne nous aime? Qu'est-ce que le gouvernement maintenant prépare en dehors de ce qu'ils ont pris comme décision?
Bien, merci Dieudonné Tshibangu. Je pense que c'est monsieur Mabiala, qu'est-ce que vous pouvez lui dire par rapport à cette préoccupation?
Alors, si nous accueillons des ambassadeurs francophones autour de ce studio de Radio Capi, c'est bon signe, c'est un très bon signe pour moi. C'est un acte de solidarité. Et donc, Nous faisons partie de la francophonie. Je rappelle, monsieur Tshibangu, c'est ça, monsieur Tshibangu, que l'Organisation internationale de la francophonie regroupe le moment 88 États et gouvernements membres. Donc, ce n'est pas seulement la France. Donc, il y a plusieurs États et gouvernements sur lesquels nous pouvons compter justement en cette période difficile. Et nous avons le soutien de la plupart d'entre eux. Et n'oublions pas que en matière de diplomatie, parfois les résultats ne sont pas nécessairement immédiats et puis on ne dit pas tout nécessairement en public. Il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de négociations qui se passent dans les coulisses. Et donc c'est important de savoir que si on a vu quelques résultats, la France, la Belgique ont condamné l'agression du Rwanda, ils l'ont dit publiquement. Mais c'est le résultat d'un long processus. Et donc, il faut savoir que, contrairement à ce qu'on croit, nous, les pays amis francophones nous soutiennent, sont avec nous, et les efforts sont en cours à travers la présidence, à travers son Excellence le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, son Excellence le Tundula. Les efforts sont en cours pour poursuivre ces processus diplomatiques, obtenir le soutien qu'il faut. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous devons être présents de plus en plus, de façon déterminée, là où ça se discute, là où ça se décide. Et donc, la RDC, en tant que grand pays, doit prendre sa place et nous devons réfléchir justement sur qu'est-ce que nous devons faire, nous, Congolais, pour occuper de plus en plus une place au sein de...
Monsieur Mabiala, la RDC a accueilli les Jeux de la Francophonie en 2023. Ouais. Qu'a-t-elle pu tirer sur la scène internationale? Qu'est-ce qu'elle a pu tirer de cela sur la scène internationale?
Mais beaucoup de choses, beaucoup de choses. Vous savez, il y a des jeunes qui sont venus ici, qui sont venus de tout le parti du monde. Il y a des jeunes qui venaient en Afrique pour la première fois, et cette première fois, c'est en RDC. C'est des choses, des souvenirs qui resteront ineffaçables dans la mémoire. Et ça, c'est des choses qui feront que si un jeune, parmi les jeunes qui sont venus, que ce soit un jeune belge, un jeune suisse, un jeune canadien, si jamais un jour il devient PDG dans son pays, qui cherche des partenaires, le souvenir de la RDC restera gravé. C'est ça, justement, aussi. Le but de ces échanges, c'est forger des liens entre les jeunes, entre les populations, etc. Maintenant, au niveau diplomatique aussi, il y avait beaucoup d'appréhension avant l'organisation de ces jeunes. Nous étions confrontés à beaucoup de défis, mais nous n'avions jamais cessé de dire que nous tiendrons nos promesses. Et fort heureusement, tout s'est très bien passé et de la plus belle manière. C'était un succès extraordinaire. Et donc, sur le plan diplomatique, c'est un atout pour nous. Nous avons démontré notre capacité de bien faire les choses. Et donc, c'est important pour nous de continuer justement à jouer ce rôle au sein de la francophonie.
Bien. Parlons à présent de la coopération, surtout dans le domaine de la formation. On dit que les étudiants africains des pays francophones ont du mal à pouvoir suivre des études en France ou dans d'autres espaces francophones comme le Canada. Alors, que faut-il faire pour améliorer cette mobilité étudiante? Que faut-il recommander aux étudiants pour mieux se préparer à aller suivre des études dans l'espace francophone international? Monsieur Rachid Agassim, ambassadeur du Maroc.
Merci d'avoir évoqué ce volet. Je voulais retourner un peu en arrière pour la question de la promotion du livre. Le Maroc organise chaque année le Salon international du livre et chaque année, des écrivains RD congolais sont invités au Maroc. Chaque année. Pour la formation, vous avez très bien fait de mentionner ce chapitre parce que c'est l'essentiel et surtout quand on vient à l'éducation, c'est la base, comme a dit mon cher frère Doro du Sénégal. Parce que sans formation, on n'a rien. Pour rentrer dans quelques petits détails, pour le Maroc, nous avons un programme assez ambitieux pour toute l'Afrique. Nous accueillons pour le moment 22 000 étudiants de 39 pays africains, dont la RDC. Et pour la RDC, chaque année, ça fait de maintenant 3 ans, chaque année, on accorde 160 bourses pour le cycle normal, 30 bourses pour la formation professionnelle,
50% pour la spécialisation dans la médecine. Et pour la fondation de la première dame, Denise Nyakiro, on accorde, dans le cadre du programme Excellencia, 20%. Et ça, c'est annuel. Ça veut dire que le français, là, il joue sa part. La langue française joue sa part. Quand il se déplace au Maroc, c'est un pays qui n'est pas à 100% francophone, mais que tous les étudiants d'expression francophone peuvent évoluer et peuvent réussir. Moi, je me vends toujours à chaque fois que je vais dans une administration, même des hôpitaux, je trouve toujours des Congolais qui ont été formés au Maroc.
Au Maroc, surtout dans la médecine.
Dans tous les domaines. La médecine, ça fait maintenant 3 ans que les médecins congolais qui ont été formés en Europe, ils préfèrent la spécialisation au Maroc. C'est un très bon signe. Pour nous et pour les étudiants africains, bien sûr. Donc, au niveau de la formation, ça aussi, c'est un sujet qu'il faut débattre lors du sommet.
Du prochain sommet,
parce que ça, c'est la base. On a une jeunesse très, très jeune à travers toute l'Afrique et surtout en RDC, qui est l'un des plus grands pays du continent. Donc, il faut adresser ce sujet avec beaucoup de sérénité et beaucoup de générosité, je dirais. Merci.
Monsieur Bruno Aubert, ambassadeur de France, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cet aspect, la mobilité étudiante,
Moi, avant tout, je voudrais me référer à ce qui a été dit auparavant. Je ne pouvais pas laisser passer l'idée selon laquelle la France serait indifférente à ce qui se passe à l'Est. Je remercie le délégué général pour sa mise au point. Mais je rappelle quand même sur les ondes rapidement, bien que ce ne soit pas le sujet de ce matin, c'est que nous sommes constamment en soutien, nous avons constamment été en soutien, et nous le sommes toujours, de l'unité de ce pays, de son intégrité territoriale, de la protection de ses populations. Au Conseil de sécurité des Nations Unies, nous avons sur place, sur le terrain, des programmes de coopération considérables à travers l'Agence française de développement, pour des centres de santé, des centres de formation professionnelle, des hôpitaux. Nous avons 2 instituts culturels à Goma et à Bukavu, en soutien à la jeunesse, à la créativité de la jeunesse et à la vie culturelle. Nous avons triplé notre aide humanitaire à cause de l'augmentation exponentielle du nombre des déplacés dû à la crise autour du M23 depuis maintenant plus d'1 an et demi. Et enfin, nous sommes un des rares pays à avoir une coopération militaire et de défense conséquente avec ce pays. Et nous aidons ce pays à avoir un appareil militaire qui lui permet d'exercer sa souveraineté correctement. Donc je voudrais que cessent ces procès d'intention ou en tout cas ce manque d'information. Voilà, en tout cas, je remercie le délégué général pour ce qu'il a dit, mais je me sens obligé de rappeler les faits. Maintenant, venons-en à votre question.
Voilà, venons-en. Nous parlons maintenant des étudiants. On a l'impression que les étudiants des pays francophones ont du mal à suivre les études en France ou dans d'autres pays comme le Canada. Alors comment améliorer la mobilité étudiante?
Il faut d'abord, la solution réside d'abord dans les systèmes éducatifs nationaux. C'est pour ça que nous développons des processus de coopération éducative et universitaire. Alors, je ne vais pas vous détailler les instruments, mais là, il y a un vrai sujet qui tient effectivement à la qualité de la maîtrise du français. Des sondages qui sont faits, par exemple, en RDC, montrent que près de 80% des gens s'estiment francophones. Mais selon les indicateurs que moi je ne connais pas, je ne suis pas un spécialiste, mais il y en a à peu près 48% qui sont considérés comme ayant une véritable maîtrise du français au sens de l'écriture, de la lecture et d'un français. Voilà. Alors, donc là, il y a un sujet qui concerne beaucoup de pays francophones. La question, c'est une question de volonté, d'organisation autour de l'efficacité des systèmes éducatifs. Je crois que ça passe d'abord par là. Et nous, en tout cas, nous avons des coopérations qui aident dans ce sens. Nos coopérations, aussi efficaces soient-elles, dans un pays de 110 millions d'habitants, avec 70% de gens qui ont moins de 25 ans, on peut pas résoudre à nous seuls le problème.
D'accord. Monsieur Jacques Mbengue, quel est votre avis par rapport à la formation?
Oui, merci. Je crois que la formation est un aspect important de la coopération dans l'espace francophone. Je parlerai essentiellement de mon pays, le Cameroun, qui, ma foi, accueille bon nombre d'étudiants venant du Congo. Étant responsable de la question consulaire de l'ambassade du Cameroun à Kinshasa, Je dois donner beaucoup de visas de Congolais qui vont étudier au Cameroun. Et c'est un aspect important. Également, beaucoup de nos voisins du Tchad, du Centrafrique, du Gabon ou bien de du Congo-Brazzaville, également sont accueillis dans nos centres de formation, que ce soit l'IRIC, qui est l'Institut de relations internationales du Cameroun, où j'ai été formé, où a été formé par type d'exemple l'ambassadeur du Tchad ici à Kinshasa. Il a des diplômés de l'IRIC, et ils sont nombreux comme ça, que ce soit à l'EIFORS, qui est l'école d'internet de force de sécurité du Cameroun, ou encore l'école supérieure d'intervention de guerre du Cameroun, où beaucoup d'auditeurs congolais sont formés, tchadiens et centrafricains. Et ils y sont formés de façon efficace parce que déjà, ils ont en commun le partage du français. Donc, c'est à relever. Il y a un espace de circulation des élites, circulation des idées et des réflexions qui, ma foi, est un atout indéniable pour notre zone d'expression culturelle.
Bien, on va accueillir un auditeur, Maître Omar de Gatigalo de Kinshasa. Bonjour. Ah, désolé, on a quelques soucis au niveau de la liaison téléphonique. Je reviens sur cette question, la coopération au niveau de l'information, voilà, permettre aux étudiants la mobilité étudiante, etc. Monsieur Jasper Sarraute, ambassadeur de Suisse, quel est votre avis là-dessus?
C'est évidemment très important parce que ça ouvre les yeux aussi si on a l'opportunité d'aller faire des études dans un autre pays et de connaître aussi une autre culture. Mais il y en a eu quelques centaines de Congolais qui ont déjà passé un séjour en Suisse pour étudier. On a même une association des anciens de Suisse ici. Mais il y en a même des membres du gouvernement actuel qui étaient des étudiants en Suisse, etc. Donc c'est un réseau qui est tout à fait utile aussi pour nous dans notre travail. La Confédération, elle octroie encore aujourd'hui, chaque année, plusieurs bourses pour aller faire des études en Suisse. Là, au moins, je vois un défi et ça, vu que mon collègue du Cameroun vient de parler aussi des visas qui vont avec. C'est comme pour toutes les demandes de visa, ce que je vois dans les bourses aussi, apparemment on a de la peine à constituer un dossier complet ici dans ce pays, et c'est pas si difficile que ça. Une copie du passeport, remplir une fiche comme il faut, ajouter les diplômes nécessaires, etc. Donc voilà, on parle pas d'une science qui n'est pas à maîtriser. Donc j'encourage tous les jeunes qui s'y intéressent à ces bourses aussi de visiter notamment les sites web, j'imagine, de nos ambassades respectives, où en gros, toujours tout est décrit, y inclut les conditions pour soumettre sa candidature.
Monsieur Mabiala, un mot par rapport à la formation, la mobilité étudiante?
Oui, c'est, nous l'avons rappelé tout à l'heure, l'éducation c'est la base. Et l'éducation comporte plusieurs facettes. Il y a l'éducation de base, mais il y a aussi, un peu plus loin, des études universitaires. C'est important d'ailleurs. En Europe, par exemple, une expérience extrêmement intéressante qui permet la circulation des professeurs, des étudiants, etc. Et donc ça, c'est très important. Et au sein de la francophonie, je pense que cela a toujours été également une de demandes, voir qu'est-ce qui pourrait être fait pour faciliter la circulation des professeurs, des chercheurs, des étudiants. Oui. Je sais que l'Agence universitaire de la francophonie travaille là-dessus, mais il y a évidemment la question du visa qui doit être résolue, et ça c'est une question qui relève de la souveraineté des États. Mais dans le cadre justement de la francophonie, il faudrait qu'on en discute, qu'on voit effectivement quels sont éventuellement les efforts additionnels que chaque État membre peut faire pour justement que ces rêves-là d'intégration se concrétisent.
Et d'après vous, quel est l'opérateur francophone qui semble le mieux fonctionner? On a l'AUF, TV5 Monde, AIMF, Université Senghor. Rapidement, quel est votre avis là-dessus?
Non, mais chacun de ces opérateurs a un mandat précis. Donc, on ne peut pas faire des comparaisons. Par exemple, l'Assemblée parlementaire de la francophonie, beaucoup de gens ne connaissent pas. C'est un espace où les parlementaires du monde francophone se retrouvent, échangent et discutent sur les questions des droits de l'homme, de démocratie, et ainsi de suite. C'est vraiment un espace de diplomatie parlementaire. Ça, c'est une spécificité de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Je viens de parler tout à l'heure de l'Agence universitaire de la francophonie. francophonie qui réunit des universités. Pour le moment, je pense qu'ils sont plus de 900 membres un peu partout à travers le monde. Et ça, là, c'est la coopération universitaire, des échanges des professeurs, des chercheurs, des étudiants, des bourses d'études, exactement. C'est là aussi on pousse la recherche en français, parce que, comme vous le savez, justement, il y a un problème au niveau mondial. Les revues scientifiques les plus réputées, c'est en anglais et tout ça, etc. Et pour les chercheurs, c'est effectivement problématique. Donc, l'Agence universitaire de la francophonie a sa spécificité. TV5, nous connaissons tous l'importance de TV5 pour nous, le monde francophone. Quand on voyage, vous êtes dans un pays francophone.
Oui.
Avoir des informations en français, c'est quand même une aubaine. Et puis, l'Association internationale des maires francophones, ça, là, c'est la coopération au niveau local, hein, des communes, tout ça, etc.
Et aussi la CONFEMEN,
oui, alors la maintenant, conférence des ministres de l'éducation, et la CONFEGES,
voilà.
Conférence des ministres de la jeunesse et du sport. Là aussi, c'est des espaces où, par exemple, pour la CONFEMEN, les ministres en charge de l'éducation dans l'espace francophone se rencontrent, discutent des stratégies, des possibilités de travailler ensemble.
Merci, on n'a plus beaucoup de temps. On s'achemine vers la fin de cette émission. Monsieur De Rossi, ambassadeur du Sénégal, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à la formation là?
Alors, pour ne pas faire long,
oui.
Compte tenu du temps,
Je pense que c'est tout le sens de ce qui nous réunit, en fait. La francophonie doit être un vecteur de valeur, de solidarité et de coopération. Moi, je pense que un étudiant originaire du Cameroun ou du Sénégal ou du Maroc qui veut aller étudier en France, ça doit être quelque chose de beaucoup plus facile pour une autre particularité. Et c'est à ce niveau-là, je pense que la francophonie doit travailler. Et
accorder beaucoup plus de facilité.
Absolument, aux étudiants, absolument. Mais voilà. il faut que quand on est dans une famille, on doit avoir des privilèges quand même à un certain niveau. Et je pense que les privilèges de la connaissance et de l'éducation doivent être des éléments qui sont mis en avant. Et faire attention surtout, il y a un fort mouvement de repli vers soi qui se voit ici ou là en Europe. Et je pense que ça, ces politiques-là, peuvent être des freins à cet esprit de solidarité au niveau de la francophonie.
Bien, on va terminer avec M. David Donnant, délégué de Wallonie-Bruxelles.
Oui, alors, en préambule, je suis très solidaire du collègue français, ce qu'il a dit en préambule est tout à fait correct. Je n'irai pas plus loin sur ce sujet-là. En ce qui concerne l'enseignement et l'enseignement supérieur, c'est un vrai défi et c'est vraiment un de nos vrais combats. Parce qu'on parlait francophonie, ben ça permet déjà aux francophones de pouvoir aller étudier facilement dans une autre université francophone. Absolument. Ce qui ne serait pas le cas pour beaucoup d'autres personnes qui parlent d'autres langues. Donc ça facilite, ça permet à un Congolais de venir étudier en France, en Belgique, en Suisse. Sans que déjà la question de la
au Sénégal, au Cameroun,
sans que la question de la langue se pose au départ. Se pose quand même un problème dont on n'a pas parlé, c'est le niveau qu'ont les étudiants congolais au sortir du secondaire. Parce que ça pose problème par rapport au niveau des études qui sont chez nous. Le deuxième problème qui se pose, c'est effectivement un problème de visa. Et ça, effectivement, je pense que collectivement, on sait bien qu'on devrait y réfléchir, et on y réfléchit d'ailleurs. Une des choses que nous faisons, c'est plutôt que d'envoyer les étudiants congolais en Belgique, on a par exemple l'Université de Liège, mais c'est pas la seule, on a l'ICHEC de Bruxelles, qui maintenant organise des masters chez nous. Et je terminerai en disant que cette semaine, l'UNIKIN fête les 70 ans. L'UNIKIN, c'est le Vanium. Les recteurs des universités de Louvain francophones, donc l'UC Louvain et la KU Leuven, étaient ici cette semaine et ont eux-mêmes spontanément créé 70 bourses pour 70 ans dans des post-docs, dans des formations de plus longue durée chez nous en Belgique. La volonté est là, mais les défis sont là également.
Bien, merci beaucoup, Monsieur David Tonon, et Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Messieurs les ambassadeurs, je vous remercie d'avoir participé à cette émission de La Vie au quotidien, au Capi Service. Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève cette émission de La Vie au quotidien, au Capi Service, émission spéciale, journée internationale de la francophonie. Merci de l'avoir suivi partout où vous êtes en RDC, et merci de nous avoir suivi sur Internet, sur www.radioocapi.net. Jean-Noël Mokundo a assuré la mise en onde, Tatima Boukou était à la coordination et à la réalisation. Au micro, Jody Daniel Kachama, tout le plaisir était pour nous de vous servir. Restez branchés sur la fréquence de la paix et à la prochaine.